Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Et oui, nous sommes toujours des drôles de dames. Bonjour tout le monde.
Bonjour,
bonjour
tout le monde.
Sylvain. Voilà, nous sommes le mardi 3 mars et vous êtes encore et toujours sur Fréquence 7, la radio décalée, différente et pas pareille, pour écouter donc cette merveilleuse émission Drôles de dames. Alors, à quelques jours du 8 mars, date de la journée internationale des droits des femmes, et dans un contexte de fascisation dangereuse de la société, à mon avis, nous allons discuter autour des revendications des femmes, mais on va faire aussi un état des lieux des droits acquis et on se posera la question de savoir s'ils sont en danger. Alors, on va rappeler brièvement que le 8 mars, c'est une journée de mobilisation générale pour l'égalité femmes-hommes. Alors, pourquoi cette date? Eh bien, tout simplement parce que ce même jour, en 1917, les ouvrières de Saint-Pétersbourg font grève. Et donc, c'est le début de la Révolution russe. Et en 1977, soit 60 ans après, quand l'ONU instaure la Journée internationale des droits des femmes, eh bien, elle choisit le 8 mars. Voilà pour la petite histoire. Alors, ce mois, on a l'immense plaisir avec Daniel d'accueillir Muriel, professeure d'anglais. Elle nous parlera donc de quelques figures féministes, d'un retour visiblement bien marqué des préjugés, des discriminations autour des femmes aux USA, avec évidemment la banalisation des idées de l'extrême droite sous le mandat de Trump. Muriel, merci à toi d'avoir accepté l'invitation.
Merci beaucoup.
Et Daniel, elle, parlera des luttes et de leurs limites, et en particulier sur le territoire français. Alors, voilà. Le féminisme, aujourd'hui, est quand même quelque chose qui est conséquent. Et Daniel, tu voulais introduire, et commencer par ça, donc, quelques avancées majeures en France et en Europe.
Oui. Alors, très, très, très succinctement, dans les 50 dernières années, parce que ça commence vraiment dans les années 30, le début du féminisme revendiqué, entre les années 70 et 80, on a vu des avancées majeures en France dans le cadre européen. Donc, l'égalité parentale, la législation de l'avortement, la reconnaissance internationale des droits des femmes et l'extension du remboursement des IVG. Les militantes, elles ont dénoncé à cette époque la domination dans le couple et la répartition inégale des tâches domestiques. Il y a eu beaucoup de littérature sur le sujet, très intéressante. Elles ont réclamé le droit à disposer de leur corps, en particulier à travers la législation de la contraception et de l'IVG. Dans les années 80-90, les États commencent, au niveau européen évidemment, à adopter des lois contre les discriminations, tandis que les organisations internationales fixent des objectifs d'égalité.
D'accord, donc il y a quand même eu quelques avancées considérables, mais on reviendra là-dessus après pour quand même en examiner les limites. Alors du coup, le féminisme aujourd'hui est un mouvement diversifié, avec des revendications donc centrées sur la libération de la parole, hein, en particulier aujourd'hui, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et l'égalité des droits pour toutes les personnes, y compris trans. Depuis la fin du XXe siècle, de nouvelles formes de mobilisation, de manifestations et de campagnes en ligne ont transformé justement cette manière de défendre les droits des femmes. Daniel, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces nouvelles formes de mobilisation ?
Oui, on peut parler d'un tournant numérique et d'une explosion des mobilisations en ligne. Avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux au début du XXIe siècle, les luttes féministes contemporaines changent d'échelle. Désormais, une campagne lancée depuis une ville peut être relayée en quelques heures à l'autre bout du monde. Ainsi, des hashtags comme MeToo en 2017 ou Balance ton porc en France deviennent les symboles d'une prise de parole massive contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles. Ces mobilisations donnent une visibilité nouvelle à des violences longtemps minimisées, en particulier dans les milieux lieu professionnel et culturel ou politique.
Ça, c'est clair que ça a énormément bougé de ce point de vue-là, et donc du coup, ça a visibilisé, si j'ose dire, la parole des femmes.
Bien sûr, il y a eu des conséquences négatives, hein, puisqu'il y a eu des harcèlements en ligne, etc. Mais bon, en tout cas, ça existe vraiment.
D'accord. Muriel ?
Oui.
Je crois que tu veux nous recommander justement la lecture d'un texte autobiographique d'une militante féministe américaine, puisque c'est ta spécialité.
Oui, en effet. Donc, Tarana Burke, qui en 2007 a été une des premières à lancer le mouvement MeToo, et notamment avec son livre Unbound, qui en français on pourrait traduire par... En fait, c'est pas traduit, mais on pourrait le traduire par libéré, qui est vraiment une autobiographie de ce qui lui est arrivé, elle, dans sa vie, avec les agressions sexuelles, qui est un réel problème, notamment chez les Afro-Américaines aux États-Unis. Effectivement. Donc, elle est militante américaine, directrice des programmes Girls for Gender Equity, donc l'équité des genres, et particulièrement connue pour avoir lancé donc cette campagne MeToo en 2007. Ouais.
D'accord. Donc, du coup, c'est une autrice parmi d'autres, hein, qui met vraiment l'accent sur justement les violences sexuelles et qui, du coup, ça permet de considérer que le corps des femmes, c'est un enjeu politique majeur. Daniel ?
Absolument majeur. Dans les luttes féministes contemporaines, le corps des femmes est au centre des débats, car il a été longtemps contrôlé par la famille, la religion et l'État. D'abord, les questions de la sexualité, de la maternité et du mariage ont servi à limiter la liberté des femmes et à les enfermer dans le rôle d'épouse et de mère. Il suffit de penser à nos grands-mères pour s'en souvenir. Revendiquer le droit à disposer librement de son corps, c'est aussi contester un ordre social qui place les hommes en position de domination, qui pousse à la revendication du droit à disposer de son corps et qui conduira au combat pour le consentement. Depuis la fin du XXe siècle, les luttes féministes contemporaines ont permis de faire progresser le droit à disposer de son corps. Mais elles ont aussi montré que la loi ne suffit pas. Par exemple, la législation de la contraception et de l'IVG a constitué une avancée majeure, mais l'accès réel à ces droits reste inégal selon les territoires et les milieux sociaux. La notion de consentement est devenue un mot-clé des luttes féministes contemporaines, notamment chez les adolescentes et les jeunes adultes.
Oui, alors justement, moi je voudrais revenir très très brièvement là sur ce droit à disposer librement de son propre corps et donc sur ces questions de l'IVG et cette notion de consentement qui quand même vient très très récemment, ces deux notions, de connaître un progrès juridique.
Oui, effectivement, c'est très récent, le 4 mars 2024, l'IVG a été inscrit dans la Constitution. 780 députés et sénateurs approuvent l'inscription dans la Constitution de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. La France devient ainsi le premier pays au monde à protéger le droit à l'avortement dans son acte fondamental. Le 6 novembre 2025, intégration juridique de la notion de consentement, la France rejoint plusieurs pays européens en inscrivant le consentement dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. En 2026, le 28 janvier, l'Assemblée vote enfin la fin du devoir conjugal. Ça me fait sourire, mais c'est vrai qu'il existait toujours dans les textes. Les députés votent à l'unanimité une proposition de loi visant à modifier le Code civil afin de mettre fin au devoir conjugal.
Bon, il y a quand même une reconnaissance de la nécessité, hein, de tenter de mettre un terme à l'idée de domination, ou au moins de considérer justement la femme qui est en face de soi. Alors, justement, c'est le moment quand même de faire un petit tour de ce qui se passe aux États-Unis, voir s'il y a des avancées ou pas. Hein, Muriel, un petit mot là-dessus ?
Oui, eh bien, en 2024, tu disais, Daniel, par rapport à la France, je pense que ça a été un petit coup par rapport aux États-Unis, parce qu'en 2022, justement, ce droit, qui était un droit national pour la femme aux États-Unis sur tous les États, a été revu par la Cour suprême comme étant... alors, non pas, ils n'ont pas dit que c'était illégal, ils ont dit que c'était quelque chose qui devait revenir à chaque État. Donc, ce qui voulait dire que chaque État pouvait prendre des décisions, et en sachant que chaque État avait déjà des propositions de loi qui étaient là, qui attendaient qu'une chose, c'est que la Cour suprême revoie Roe versus Wade, qui était le jugement de 1973. Donc, en sachant que, aux États-Unis, le pays des libertés, l'IVG ou l'avortement était un droit de 1973 jusqu'en 2022, RIP. Donc, du coup, effectivement, je crois que la France a fait un petit bond là-dessus en disant « pas chez nous, quoi ». Donc, voilà. Donc, pour vous donner une petite idée, tout ça commence en 1964 aux États-Unis, où, suite à des morts de femmes au niveau de certaines maladies, on a commencé à dire « bon, les médecins, on va pouvoir leur dire qui prend la décision, c'est les médecins, pas le gouvernement ». La Californie, en 66, c'est la première et le premier État à faire ça. Et ensuite, en 73, il y a eu ce jugement, justement, de Roe versus Wade, un grand, grand combat et une grande avancée pour les femmes.
D'accord. Et je crois que tu voulais dire quelque chose sur le Tennessee. Là, il se passe quelque chose
quand
même.
Oui, voilà. Donc, à l'heure actuelle, pour vous montrer à quel point les États n'attendaient que ça, c'est que dans le Tennessee, il y a une proposition de loi qui vise à donner la peine de mort aux femmes qui font des IVG, en sachant que ça ne les arrête pas, puisque dans le Tennessee, l'an dernier, il y a eu quand même 5 000 IVG, dont 10 000, et 10 000 qui ont été en dehors de l'État. Donc là, ils veulent faire en sorte que ça soit soit la vie en prison, soit la peine de mort.
C'est délirant.
Ouais, peine de mort.
Alors, pour être clair, on espère que les votes ne seront pas là, en fait. Mais c'est quand même... ils essayent de faire ça dans plusieurs États.
Donc on a la preuve, là, d'une grande régression. Hein. On ne peut pas dire les choses
autrement. Non.
Autrement, oui. Bon. Par ailleurs, on parle de beaucoup de féminicides, comme si c'était un mot récent. Est-ce que c'est toujours le cas, Daniel ?
Alors, les féminicides, effectivement, c'est un mot pour une réalité qui est ancienne. Un autre aspect, effectivement, des luttes féministes contemporaines, c'est la dénonciation des féminicides. C'est-à-dire, ce mot recouvre la notion du meurtre des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et elles sont tuées souvent dans un contexte conjugal ou familial. Ce mot n'est pas totalement nouveau, mais il s'est imposé dans les débats publics au début du XXIe siècle, grâce au travail des militantes, de journalistes et de chercheuses.
D'accord. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les luttes féministes contemporaines, elles ont permis de rendre visibles des violences longtemps passées sous silence, comme le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel au travail, les agressions sexuelles, etc. etc. Et pendant longtemps, d'ailleurs, ces situations étaient minimisées, voire considérées comme des dragues lourdes ou des histoires privées. Bref, on cachait tout cela, quoi. Or, des voix vont s'élever pour nommer et dénoncer ces violences sexuelles et sexistes. Alors, Muriel, est-ce que tu peux nous dire si, quand même, il existe des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes, voire contre toutes les formes de violences aux États-Unis? Et puis, du coup, nous faire un petit état des lieux, je crois que tu as quelques chiffres, sur les violences faites aux femmes.
Oui, effectivement, il y a la plus grande association qu'on connaît aux États-Unis, ça s'appelle RAIN, R-A-I-2-N, qui donc est Rape, Abuse, Incest National Network. C'est celle que tout le monde connaît, les lycéens, toutes les femmes le savent. Il y en a plusieurs, il y en a même qui sont extrêmement ciblés sur les personnes racisées ou les femmes immigrées. Donc c'est, il y en a plusieurs, mais la plus grande, c'est celle-là. Alors, au niveau des chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, toutes les minutes, aux États-Unis, il y a une personne qui est agressée. Donc, toutes les 9 minutes, cette personne, c'est un enfant. Ouais. Une femme sur 6 aux États-Unis est victime de tentatives de viol ou de viol avéré. Donc, 1 sur 10 ou 1 sur 10 pour les hommes, pour vous donner un petit peu le... Parce qu'effectivement, qu'on soit clair, les hommes aussi subissent des agressions sexuelles, mais pas au même chiffre que les femmes. Et là, on vous parle que des agressions qui sont
déclarées,
quoi. Donc, depuis 1998, 17,7 millions de femmes ont été victimes de viol ou de tentatives de viol. Et 2,78 millions sont des hommes. 82% des jeunes victimes sont des filles et 90% des adultes victimes sont des femmes. Donc 3% pour les hommes.
Ouais, donc c'est quand même incomparable.
Ouais. Les jeunes filles âgées de 16 à 19 ans sont 4 fois plus à risque d'agression sexuelle, de viol ou de tentative de viol.
Wow. Ouais. Donc c'est des futurs jeunes adultes qui sont habitués en fait à vivre dans la crainte permanente.
C'est ça, en fait, le problème, je pense, c'est la façon dont on parle de ces agressions sexuelles. Dans le sens où la responsabilité est toujours sur la femme, sur le fait de, eh ben, ne t'habille pas comme ça, ne sors pas à telle heure, mets les clés entre les doigts au cas où, change de trottoir, ben, en fait, non, quoi. Mm. La responsabilité, ça ne doit pas être sur nous, elle doit être sur la façon dont on élève nos garçons. Donc, les femmes étudiantes sur les campus universitaires américains, les campus qui nous font rêver, avec la télé, avec les films, n'est-ce pas, sont 3 fois plus à risque d'agression sexuelle, de viol et de tentative de viol. C'est énorme. Il y a toute une campagne, il y a des campagnes aux États-Unis là-dessus pour que les femmes soient vigilantes, encore une fois. La responsabilité est sur elles.
Alors, est-ce qu'on peut relier ça au fait de la montée des groupes masculinistes, incel et compagnie ?
Absolument.
Il y a un lien, peut-être, non ?
Alors, personnellement, je pense que, effectivement, plus nous, on pousse d'un côté pour être plus libre, pour être plus en sécurité, plus ça pousse de l'autre côté, en fait. Donc, ça fait vraiment cette... Et juste un dernier chiffre, 6,2% des femmes militaires sont victimes d'agressions sexuelles chaque année. Et 0,75% des hommes.
Ouais, donc c'est quand même une situation alarmante.
Ah oui.
Oui, carrément, quoi. Ouais. Et dans les luttes féministes, on parle de la notion d'intersectionnalité.
Oui.
Daniel ?
Oui, alors à l'heure actuelle, oui, c'est une notion importante, puisque cette notion de féminisme intersectionnel, elle occupe une place importante aujourd'hui. Elle recouvre, elle est popularisée, cette expression, cette notion, à la fin du XXe siècle, pour montrer qu'une femme peut subir à la fois le sexisme, le racisme et la domination de classe. On est privé de rien quand on est une femme, hein, on a droit à tout. À la totale. Alors, par exemple, une femme noire qui travaille dans un emploi précaire ne vit pas les mêmes obstacles qu'une femme blanche diplômée de l'enseignement supérieur, même si toutes les deux subissent des inégalités liées au genre. Mmh. Elles cumulent.
Voilà. C'est ça,
en fait.
C'est ça.
C'est le fameux privilège blanc, en fait. Hein.
Oui, ce qu'on appelle le fameux privilège blanc. Enfin, qui est là, relatif, en l'occurrence, face aux violences, je pense que... Voilà, mais c'est vrai qu'il y a effectivement des niveaux qui s'accumulent, en fait, des pressions qui s'accumulent.
C'est ça, c'est ça. Alors, Muriel, toi, tout à l'heure, tu as parlé donc d'une militante américaine, et tu voudrais justement évoquer le travail militant d'une autre auteure et apporter justement quelques remarques sur les violences faites aux femmes racisées.
Effectivement, Angela Davis, qui est un grand nom quand même hein, chez les féministes, chez les philosophes, a écrit un livre qui s'appelle « Femmes, race et classe » en 1981. Et alors pour la petite histoire, Angela Davis est donc... ça fait très très longtemps qu'elle est militante pour les droits de l'homme. Elle est professeure de philosophie. Elle a grandi dans l'État de Alabama, qui est donc un État du Sud, ce qu'on appelle le Sud des États-Unis, qui a vécu la ségrégation à cette époque-là. Elle est confrontée à ce racisme dès le plus jeune âge, hein, et quand elle est partie à l'université, elle est partie à New York et là, elle a rencontré un autre monde. Elle fait partie, donc à l'université de Massachusetts, elle fait partie d'un groupe qui s'appelle les Black Panthers, les Black Panthers. Et ensuite, elle rejoint Che Lumumba Club, qui est une section du Parti communiste qui est réservée justement aux Afro-Américaines. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le FBI, donc, qui regardait tout ça hein, de très près, l'a accusé d'avoir participé à une prise d'otage. Donc, elle part en cavale. Elle est d'ailleurs partie en France à un moment donné. Elle a fait des amis là-bas. Et quand elle a été accusée de tout ça, il y a des Français qui sont venus à son aide, notamment Jean-Paul Sartre et Jacques Prévost. Prévert. Et ensuite, elle a été acquittée. Donc, elle est toujours enseignante à l'université. Elle est toujours professeure de philosophie et toujours en train de se battre pour les droits des femmes, contre le racisme et contre l'écocide également.
Ok, c'est très bien. Et donc, du coup, tu voulais justement apporter quelques chiffres portant donc sur les femmes racisées pour montrer que, justement, elles sont plus à risque de violence.
Oui. Aujourd'hui encore, donc, les femmes racisées sont plus à risque de violence que les femmes blanches, comme tu disais notamment. Les femmes multiraciales sont 33,3% plus à risque. Les femmes autochtones, donc notamment les natifs américains, 26,9%, et c'est pas qu'aux États-Unis, là ça existe aussi au Canada. Les femmes noires, 22%. Les femmes blanches, 18,8%. Et ensuite les femmes hispaniques, 14,6%.
Waouh!
Voilà.
Ouais, donc c'est très 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 net. Bref, les préjugés et les autres propos sexistes existe encore bel et bien. Et avec la montée de l'extrême droite, il semblerait qu'on recule. Alors Muriel, tu veux nous faire part justement de quelque chose qui vient de se produire et qui montre des propos sexistes tenus très récemment par le président Trump.
Et oui, donc nous savons tous que les Jeux olympiques d'hiver viennent d'avoir lieu, donc... un grand sport aux États-Unis, enfin le Nord surtout, et puis le Canada, c'est le hockey sur glace. Et pour la première fois, l'équipe féminine et l'équipe masculine ont gagné l'or. Donc qu'est-ce qui se passe? L'équipe féminine gagne le 19 février. Ça se passe dans la grande joie, mais rien d'exceptionnel, pas d'appel du président des États-Unis. Le 22 février, les hommes gagnent pour la première fois en 46 ans quand même, alors que les femmes depuis 98 où elles ont eu le droit de jouer, elles ont gagné une médaille à chaque fois. Donc le 22, il y a le directeur du FBI qui a pris l'avion pour aller à Milan et qui a fait la fête avec dans les vestiaires, évidemment, c'est tellement cliché, dans les vestiaires avec l'équipe masculine. Et là, il y a le président qui appelle. Et qui fait la blague en disant vous comprenez bien qu'il va falloir que j'appelle l'équipe féminine pour venir à la Maison Blanche, parce qu'il a invité l'équipe à la Maison Blanche, et en disant sans quoi, si je les invite pas, on va encore me traiter de sexiste et on va essayer de me faire quitter la présidence. Donc ce qu'ils appellent de impeachment. Donc c'était la grande blague des vestiaires. Et ce qui a rendu les gens fous aux États-Unis, c'est que dans cette vidéo, tout le monde rigole. Donc, toute équipe masculine qui travaille avec l'équipe féminine depuis 4 ans côte à côte pour avoir cette victoire, et ben, ils rigolent. Et c'est évidemment sur les réseaux sociaux, tu en parlais tout à l'heure, tout le monde disait « oui, c'est bon, c'est une blague ». Mais encore une fois, c'est le président, soi-disant du monde libre, du pays de la liberté, qui fait cette blague sexiste dans les vestiaires. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que les femmes, elles, n'ont rien dit, jusqu'au jour où on pose la question au capitaine, à la capitaine de l'équipe, qui elle dit, bah, encore une fois, je suis là à être obligée de répondre par rapport aux actes des autres, et c'est pas ma responsabilité, quoi.
D'accord. Bien. Daniel, tu
juste un petit mot, je veux dire que même en France, l'extrême droite utilise le féminisme pour diffuser des discours sur la violence, soi-disant l'immigration, etc. Enfin bon, le problème de l'extrême droite, il est extrêmement grave en France.
Ah, oui,
en
oui.
Europe, d'ailleurs, ça monte.
Oui, oui, tout à fait. Et tu as même des collectifs hein, qui...
Comme les Mises, par exemple. Voilà, les Mises... soi-disant féministes, c'est totalement faux, parce qu'elles sont complètement conservatrices et réactionnaires, enfin, contre l'IVG, contre le droit à l'avortement, enfin, c'est vraiment réactionnaire au possible. Quoi.
Oui, oui, oui. Oui.
Et oui, voilà. C'est assez d'ailleurs très surprenant de vouloir se qualifier de féministe, identitaire, alors même que précisément on ne prône pas du tout l'égalité des droits.
Ah ben non, elles ont une vision exactement conservatrice et réactionnaire. Hein. C'est le retour au foyer, c'est ça le rôle des femmes, quoi. Voilà.
Exactement. Et donc pour conclure, eh bien, il est quand même très très important de se souvenir des mots de Simone de Beauvoir, notamment avec justement comme tu l'as rappelé, Daniel, avec la montée de l'extrême droite. Mmh. Écoutez un instant donc ce que dit Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.
Et nous le serons.
Bien évidemment. Et voilà, drôle de dame, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.
Portez-vous
merci.
Bien, au revoir.
Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Ici, je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si j'ai l'air viril, fille virile. Depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine. Si Maman sait que je suis masculine, une fille virile, une fille virile.